Bonjour à tous. C'est vraiment une joie, une grâce, un privilège et aussi une responsabilité d'être parmi vous aujourd'hui. Je découvre votre église que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'y viens. Alors que, j'ai quand même écumé cette région en tant que commercial dans les produits chimiques du bâtiment. Et je connais pas mal d'artisans dans le coin. Et je suis heureux de découvrir votre église, que je trouve très belle. Et quand je suis rentré, le bâtiment m'a fait penser. Je vais appeler cette église une église le creux de la main, telle que vous êtes formé. Vous voyez, tel que le bâtiment. Moi, j'ai vu un creux de la main. Un creux, une main pour donner et une main pour recevoir. Alors que le Seigneur puisse vous accompagner chaque jour dans votre ministère, dans votre édification personnelle pour chaque fidèle. Et c'est de cela que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin. Quand j'ai envoyé le petit mot à Vincent pour lui dire, de quoi je veux parler chez vous, je veux parler de la parole et de la révélation de la parole. On pourrait mettre en sous-titre « Rechercher la révélation à travers la lecture de la Bible ». Et un texte de référence, un verset de référence, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 63b, parce que le 63 est assez long. Bon, je vais lire tout le verset. Alléluia. Alléluia, ça veut dire, pour ceux qui le savent, mille fois loué soit Dieu. Et moi, j'aime bien beaucoup dire Alléluia. Et quand quelqu'un dit Alléluia à côté de moi, je dis Amen. Parce que j'approuve que Dieu soit loué. Parce qu'Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Alors, je vais commencer au verset 59. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Alors il a dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. » Et c'est le verset que j'ai choisi pour ce matin. « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Donc les paroles de Dieu sont esprit et vie. La parole de Dieu a transformé ma vie. Elle a transformé ma vie en ce sens que, au départ, j'étais à peu près comme tout le monde, comme tout chrétien. Je me disais, j'ai ma vie tout court, le travail, la famille, etc. Et puis j'ai, entre guillemets, la vie spirituelle. Et la principale révélation que j'ai eue à travers la parole de Dieu, c'est que, non, la vie et la vie spirituelle, tout ça doit former un. Et pour que ça forme un, il faudrait que chacun de nous, c'est dans cette démarche qu'à travers des enseignements que j'ai reçus, à travers des témoignages, j'ai pu comprendre que cette parole n'était pas seulement comme quelque chose que l'on comble parce qu'on a déjà satisfait tous les autres besoins professionnels, affectifs, etc. Alors on prend la parole de Dieu pour combler le petit vide qu'on ne sait pas, subliminal, là, qui nous reste. Mais non, mais cette parole doit faire partie de nos vies. Et pour cela, il faut qu'elle s'intègre dans nos vies. Donc il y a plusieurs manières de lire la Bible. On peut le lire, c'est un livre très bien écrit, hein, le style, etc., quelles que soient les versions. Mais donc on peut, il y a de belles histoires. Hein. Il y a de belles histoires, il y a des enseignements. Et pour certains, peuvent même trouver que c'est un livre de philosophie qui donne des thèses... sur la vie, sur la famille, sur la société, même sur la politique, sur toutes choses. Bon, ce n'est pas le regard que moi je fais de la Bible, aujourd'hui. Mais il y a aussi d'aller vers cette parole et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta parole? Qu'est-ce que tu veux me dire concrètement dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, que je pense, que je mange, que je danse, que je travaille, quoi que je fasse? Comment peux-tu me parler? Et pour cela, pour vivre la parole dans cette dimension, chacun de nous peut la vivre, à condition d'aller dans la parole, de prier son Seigneur, de demander au Saint-Esprit, montre-moi la révélation de ma parole, montre-moi, Seigneur, ce que tu veux me parler dans chaque aspect de ma vie. Cette parole, cette révélation de la parole, nous la cherchons en lisant la Bible, en entendant la Bible, en la méditant. Mais à vouloir méditer, on peut aller dans des élucubrations personnelles et commence à voir que ce ne sont pas des élucubrations personnelles, que c'est vraiment la parole révélée. Parce que la Bible nous dit que cette parole se renouvelle sans cesse. C'est pas pour rien que si l'un lit un verset et l'autre le lit, on peut avoir des interprétations différentes. On peut avoir une compréhension, une orientation différente. Mais tout ça doit rester dans le cadre de la parole de Dieu, parce qu'elle ne se contredit pas. Dans le livre, le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Plus loin, verset 6, il dit, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. » Oui, la parole nous révèle la personne de Jésus. Mais quand elle nous révèle la personne de Jésus, elle nous révèle Dieu. Et quand elle révèle Dieu, elle nous révèle nous. Parce que notre Dieu nous a fait à son image. Donc si nous recherchons Dieu, c'est nous aussi que nous recherchons. Notre vraie nature, nous sommes des esprits qui vivons dans un corps, c'est l'enveloppe charnelle que vous voyez, vous pouvez m'identifier, donner un nom, dire non, c'est Philippe ou c'est pas Philippe. Et on en a une âme. L'âme, c'est tout ce qui concerne notre intelligence, nos sentiments, et ce dont nous avons la responsabilité. La Bible nous dit que nous avons la prospérité à tous égards. Il y a l'image de nos âmes. Donc en prenant soin de notre spiritualité chrétienne, prendre soin de notre spiritualité chrétienne, c'est prendre soin de notre âme. Parce que lorsque nous convertissons, c'est notre esprit qui se convertit. Mais l'âme, elle a toujours tendance à divaguer. C'est l'âme qui nous conduit au péché. C'est l'âme qui nous conduit au doute, on réfléchit. Ah ben oui, mais est-ce que ça, est-ce que Dieu peut? Non, la Bible nous dit, je peux tout, lui qui nous fortifie. Mais notre intelligence dit oui, bon oui, mais il y a quand même des réalités. La foi ne nie pas les évidences, mais la foi va au-delà. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, ce que notre Père a déjà fait pour nous. Donc, rechercher la révélation, c'est d'aller dans la parole avec cette attitude. Avec prendre la parole, faire corps de notre vie de tous les jours. Bien sûr, nous avons des tribulations. Nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes plus partie du monde, puisque nous avons Christ en nous. Donc, nous travaillons. Nous avons des factures, nous payons les impôts. On peut avoir aussi des difficultés dans la vie. On peut tomber malade, on peut se retrouver au chômage, avoir des difficultés. Mais quelle sera notre attitude? Est-ce que nous allons vivre tout cela avec la dimension du monde, l'inquiétude, le stress, la dépression, qui est le grand mal que nous vivons ici en France, premier pays des antidépresseurs. que la France est un beau pays. C'est une grâce. C'est un jardin vivant. Toutes les villes de France ont fleuri. Il n'y a pas de désert en France. Il n'y a pas de zone de glacier où on ne peut rien faire. Il y a tout en France. Et il y a la dépression. Parce qu'on cherche les solutions, non pas dans la parole, mais on cherche les solutions dans nos intelligences. Nous sommes pressés de toutes parts, comme disait l'apôtre Paul. Mais avec la parole, non écrasée, répond-il. Nous sommes inquiets, mais avec la parole, non désespérés. Nous sommes persécutés dans nos ministères, dans nos attitudes par rapport au regard des autres. Mais il nous dit, mais non abandonnés. Parfois nous nous sentons abattus, mais jamais anéantis. Pourquoi? Par cette parole-là. Et comment? Parce que nous avons la grâce, cette grâce qui nous fait dépasser toutes circonstances. Et cette grâce est liée au moyen de notre foi, nous dit la parole. Mais pour vivre la grâce, il faudrait croire ce que l'on lit. Et quand on croit, parler. Parce que c'est à travers sa parole que Dieu agit dans nos vies. Il disait, et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Mais de quoi nous parlons? Est-ce que nous parlons de désespoir? Est-ce que nous parlons de tristesse? Est-ce que nous parlons d'abattement? Non, nous parlons de joie. Il nous a pas donné l'esprit de peur. Nous avons un esprit de force, la force pour faire face à toutes les tribulations, la force pour faire face à toutes les difficultés, la force pour résister aux œuvres du mal. Nous adorons l'amour pour le partager, l'amour pour vivre, pour avoir de la compassion, aller vers les autres, qu'on doit libérer les captifs, aller guérir les malades, apporter la bonne nouvelle, l'amour, la patience. Nous adorons la sagesse, l'esprit de sagesse de nous guider. Et tout cela à travers cette parole. Mais comment le faire? Comment lire? Comment avoir cette révélation à travers cette parole? Elle est à la portée de tout le monde. Elle est à la portée de nous tous. Donc je vais vous illustrer quelques exemples de ce que j'appelle la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est pas... Parce que quand on entend révélation, ça a l'air de... Ah tiens, il va nous sortir quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais entendu. Non, c'est des choses tout simples. Toutes simples. Je vais vous donner... Dans le livre de Jean, nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Jésus, son ami Lazare, était décédé, toute la famille était abattue. Et alors il y a Marthe, il y a Marie qui viennent, qui disent à Jésus, bon voilà, pendant que tu guérissais les autres, notre frère Lazare est parti. Il arrive, c'était le désespoir, le deuil, tout le monde. Mais Jésus dit, mais non, je suis venu. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc il parle déjà du salut de l'au-delà. Mais il se passe quelque chose. Dans le livre de Jean, Jésus arrive, finalement, devant le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, lève-toi. Mais, vous savez que dans la tradition juive, quand on enterrait un mort, il était recouvert partout de bandelettes. Donc, j'imagine, Lazare était tout enfermé, il ne pouvait rien faire. Et puis Jésus dit, ôtez-lui ses bandelettes. Ça, c'est le texte. Mais quand je
Une fois, j'ai lu ce texte en m'interrogeant, Seigneur, parce que moi, je fais comme ça, je prie. Au départ, je pensais que c'était au hasard. Je prie, je fais ma petite prière. Après, j'ouvre la Bible, j'équilibre. Un coup dans l'Ancien Testament, un coup dans le Nouveau Testament. Je prends toujours des deux côtés. Et après, je regarde. Et je demande au Seigneur, donne-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc, je suis tombé sur Lazare. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais encore apprendre de Lazare? C'est tellement, depuis la maternelle, on m'a ressassé le test de Lazare. Donc, et j'arrive au niveau des bandelettes. Et là, paf, je me pose la question, pourquoi Jésus a dit, Jésus était tout puissant, vous êtes d'accord avec moi? Donc il aurait pu guérir Lazare. Et Lazare se l'était tout guérir, délivré de toutes les bandelettes. Mais il a ressuscité Lazare, et lui, le pauvre, il était encore enfermé, donc il ne pouvait pas trop gigoter. Il dit, ôtez-lui ses bandelettes. Et là, le Seigneur me parlait. Il m'a dit, moi j'ai fait ma part, qui est la plus grande. À toi de faire la tienne. Donc quand Jésus dit à Lazare, ôtez-lui les bandelettes,
qu'est-ce qui est plus dur?
Ressusciter Lazare ou Lazare ressuscité lui ôter les bandelettes? Évidemment, c'est ressusciter Lazare. Donc le Seigneur fait pour nous la plus grande part. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions notre pas de foi. Et notre part, elle est simple. C'est ce qu'il a dit plus haut à Marthe. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu.
Et donc, rechercher la révélation dans le texte biblique, c'est d'aller au-delà de l'histoire. Mais, encore une fois, ce n'est pas imaginer des choses. Il faut faire attention d'aller au-delà de l'histoire parce que qu'on ne soit pas influencé par d'autres théories qui ne soient pas bibliques pendant ces réflexions. Qu'on soit comme les habitants de Bérée. Les habitants de Bérée, c'est dans Acte 17, quand l'apôtre Paul vient voyager, alors on dit qu'il est né de voir les Thessaloniciens et puis il est arrivé dans une petite localité de Bérée. Et la Bible nous dit que les gens de Bérée, c'était des gens très méticuleux. Ils écoutaient bien volontiers les enseignements de Paul, mais tous les soirs, ils vérifiaient à la lumière des Écritures si ce qu'il leur avait dit était conforme. Amen. Donc il faut qu'on soit dans cette démarche, comme les habitants de Bérée, pour ne pas être trompés, pour ne pas être égarés aussi par les œuvres du malin. Un autre exemple. Est-ce que quelqu'un d'entre nous connaît celui qu'on appelle Lachmi de Gath dans la Bible? Lachmi de Gath. Même moi, il n'y a pas longtemps. Lachmi de Gath, c'était le frère de Goliath. On le trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 20, au verset 5. Je vais lire très rapidement, juste, et je veux vous montrer comment on le passe très vite. On dit qu'il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'une meule.
Dans le bois de la lance, vous voyez la meule qui est utilisée pour écraser, mouler le grain. C'était la grosseur, le bois de la lance. Et quand vous allez dans le livre de Samuel où on décrit le combat de David dans tout le chapitre 17 avec Goliath, on vous décrit Goliath. Donc, Lachmi, le frère de Goliath, il était aussi costaud que Goliath.
Alors je tombe sur ce livre, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là?
Je remarque qu'il y a juste quatre petits paragraphes, quatre petites phrases qui décrivent la chute de Lachmi de Gath. Mais il y a tout le chapitre 17 qui décrit comment, pendant des jours et des jours, Goliath était là, il haranguait le peuple d'Israël.
Et toute l'armée fuyait jusqu'à que David, qu'on avait envoyé apporter du fromage. Et ses frères lui disent, bon allez, t'as fini de livrer le fromage, allez, rentre à la maison, ça t'a rien à faire ici, il va rentrer garder les chèvres. Et David, il dit, mais c'est qui ce Philistin là? Et je ne veux pas vous raconter tout le combat de David, que tout le monde connaît très bien. Et David a vaincu Goliath. Mais c'était toute une épopée. C'était. Et après, il a été pris par Saul, il est devenu le chef de l'armée, etc. Mais j'ai la curiosité de lire que plus tard, il y a un inconnu, parce qu'on ne parle de lui nulle part, à ma connaissance, Elkaman, qui vint le frère de Goliath, qui avait la même carrure, la même stature, et je suppose la même force. Mais c'est devenu une anecdote. Donc nous sommes souvent comme David. Nous sentons faibles, et donc nous allons puiser l'énergie, puiser la puissance et le Seigneur par la prière, par l'exhortation. Et après, il y a ce qu'on voit comme Goliath, comme vain. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans nous, quand un autre Goliath vient, ce n'est plus un obstacle. On fait comme Elkaman, c'est une anecdote. C'est un sous-titre. C'est plus à la une des journaux, ça passe plus dans les télés. C'est plus dans Closer, dans Nous Deux, ou dans Paris Match. C'est une sous-rubrique cachée dans les pages, peut-être de la Nouvelle République. Et ce message de la défaite de Lachmi de Gath m'a donné beaucoup de force ce jour-là, en me disant, Seigneur, oui, quand je suis avec toi, les tribulations de la vie sont comme Lachmi de Gath. Elles passent, elles sont insignifiantes. Avant que tu ne viennes à moi, il fallait que je combatte, que tout le monde se lève, que je prenne de l'énergie, comme certains connaissent dans certaines églises. On passe 9 jours, 20 jours de jeûne, on dit non parce que là c'est trop gros, il faut qu'on se consacre, qu'on loue le Seigneur, qu'on crucifie notre chair pour arriver à cela. Mais quand on est dans la plénitude, comme était le peuple d'Israël, après la victoire de David, on voit que tout ça n'est rien quand on a la force du Seigneur en nous. Et c'est ça la révélation que j'ai eue à travers la parole. À travers cette petite histoire où en 2 phrases on a dit qu'Elkaman a vaincu la chimie de Gath. Vaincre Goliath, c'était toute une épopée. Parce que le peuple d'Israël n'était pas encore prêt. Ils ne croyaient pas en leur force. David, à travers la victoire de David, ils ont su qu'ils étaient, que l'Éternel était avec eux. Et alors, ils pouvaient avoir 10 000 Goliath, 10 000 Lachmi, avec des lances, dont le bois était aussi grand qu'une meule. On prenait un petit élément, Elkaman, qui n'était même pas un soldat célèbre, pouvait ni vaincre. Alors que toute l'armée d'Israël était terrifiée par le seul Goliath auparavant, parce qu'il n'avait pas encore l'esprit de Dieu en eux. Cette parole qui est esprit et vie. Je termine par une troisième révélation. C'est pour vous donner, je vous donne des exemples que j'appelle révélation. Parce que quand on entend aller chercher la révélation de la parole, c'est des choses qui nous aident dans la vie de tous les jours. Toutes simples, toutes basiques, qui sont là dans le texte que Jésus disait que oui, la sagesse du monde est folie et notre folie est sagesse pour Dieu. Alors, Saul, vous savez, au temps du peuple hébreu, l'onction, quand on voulait oindre un prêtre, un roi ou un prophète, cela se faisait à partir d'une corne d'huile qui était consacrée dans le tabernacle. Et une fois qu'on avait oint, cette corne était réservée dans le tabernacle. Alors il y avait 2 conditions. Qu'on prenne cette corne et que ce se fasse
que cela se fasse en public.
Nous allons voir deux destins croisés. Saul, je vous invite, après vous allez regarder dans vos Bibles, Saul a été oint en cachette par le prophète à travers une fiole d'huile. Vous allez regarder dans 1 Samuel 10, et il dit même au serviteur, il dit même à Saul, laisse avancer ton serviteur et je te oins en cachette. Et le oint à travers une fiole. Et nous voyons en parallèle deux autres personnes, David et Salomon, qui eux, pour David, dans 1 Samuel 16 au verset 13, et pour David, dans le premier livre des rois, à partir du verset 1, dans tout le premier livre des rois, qui sont, eux, oints, devant l'assemblée, à travers la corne d'huile. Quand vous lisez la Bible, vous connaissez le destin de Saul. Bon, ce fut un roi parmi les rois, mais d'un univers pas tout à fait comparable à David. Vous connaissez l'histoire de Salomon. On disait qu'il était le plus sage des sages, le plus riche des riches, parce qu'on lui avait demandé la richesse et la gloire au Seigneur, il avait demandé la sagesse, et à travers cette sagesse, le Seigneur lui a offert plus que la gloire. Alors j'ai lu ça. Pourquoi il y a la fiole là-bas et pourquoi il y a... Et quand j'ai lu les deux destinées croisées, le Seigneur m'a montré. Saul, c'est le résultat de nos actes lorsqu'ils ne sont pas conformes. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ne sont pas conformes lorsque nous nous écartons. Voilà, la brebis qui s'écarte du troupeau. Il y a le loup qui rôde. Si elle est heureuse, elle se fait un peu mordre et elle peut rejoindre le troupeau. Mais sinon, elle peut finir dans la panse du loup. Mais David et Salomon, c'est quand nous faisons nos choses, quand nous réalisons nos choses à la lumière de Dieu. Et alors sa bénédiction nous suit à travers chaque étape, malgré les tribulations. La main de Dieu est sur tout ce que nous faisons. Donc mes frères et sœurs, c'est ça la révélation de la parole que nous devons rechercher. À chaque fois, dans notre Bible, j'étais très... Elle est partie, la sœur, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est un très bon exercice. Je veux suggérer ça à notre pasteur. Ce que vous faites. Oui, c'est... J'ai trouvé ça très... ça responsabilise les gens, ça leur permet de s'exprimer. Et aussi, chacun va nous donner une révélation de la parole à travers sa vie. Et c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole que Dieu a révélée aux hommes. Et cette parole ne nous a pas été révélée pour que nous soyons des intellectuels de la Bible. Cette parole, elle nous a été révélée pour qu'elle change notre vie, pour qu'elle influe sur notre cours, bien sûr, sur le cours de notre vie, bien sûr, au début. On accueille le Seigneur comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, pour notre salut. Mais tant que Jésus n'est pas venu nous enlever, nous avons notre vie à accomplir sur terre, dont nous devons entretenir cela. Et c'est cette parole-là qui nous guide chaque jour. Cette parole doit nous éclairer. Et c'est à travers celle que... nous disons oui, nous disons Amen. Et la grâce de l'Éternel vient à travers cette parole dans nos vies. Cette grâce par laquelle nous sommes sauvés. Cette grâce que le Seigneur nous donne sans contrepartie. Recherchons cette parole. Je vous invite à chercher dans vos Bibles, à travers
d'être des assoiffés de la parole. Vous avez le culte du dimanche, vous avez les enseignements, ça c'est la base. Mais chacun de nous doit faire sa démarche personnelle. Nous devons avoir, pas comme une obligation, mais nous devons, je m'exprime mal, parce que le Seigneur ne nous oblige à rien. C'est nous devons, si nous voulons grandir dans la consécration à cette parole, à les rechercher dans la lecture, dans la méditation, dans les enseignements. Seigneur, parle-moi à travers ta parole, parle-moi à travers les Écritures, parle-moi à travers tes prophètes, parle-moi à travers les ministres, les pasteurs que tu as mis devant moi. Parle-moi aussi à travers les frères et sœurs que je rencontre. Vous savez, quand on est dans un culte comme ça, souvent on se dit, je vais attendre le moment de la prédication pour voir ce que le Seigneur va me dire aujourd'hui. Mais avant la prédication, il y a eu le moment où on s'est salué, où un frère ou une sœur dit « ça va bien ?» Il dit « peut-être oui, peut-être non, pas la manière dont elle répond. » Si vous creusez un peu, vous avez 2 minutes d'échange avec elle ou avec lui, et lui peut vous donner une parole. Ou vous pouvez lui donner une parole de vie. Et pour cette personne, cette parole peut être celle qu'elle attendait en venant au culte. Même avec le regard d'un enfant, cette parole peut être ce que moi je suis arrivé aujourd'hui. Vous savez ce qui m'a mis le plus de joie dans le cœur depuis que je suis rentré dans l'église? C'est cet enfant qui a joué là, quand le pasteur Vincent. Et c'était magnifique, parce que j'ai l'observé tout en chantant des louanges. Il était très discipliné. Il joue pendant que le pasteur Vincent joue, et quand on arrête, il s'assoit sur l'escalier. Et quand on met un autre chant, il s'élève. Donc il participait aux louanges. Et ça, ça m'a donné une joie, je ne sais pas, indescriptible. Donc, quand on est attentif à cela, quand on a on développe en soi, à travers cette parole, cette sensibilité spirituelle, le Seigneur peut nous parler à travers tout le monde. Nous allons venir au culte, nous allons être touchés par une louange, par une phrase dans les louanges qui vont toucher notre cœur. Nous allons peut-être être touchés par la prédication. Et c'est peut-être au moment du repas, en échangeant, qu'on va être touché par quelque chose. Le Seigneur nous parle partout. Il faut qu'on soit attentif. Il ne faut pas qu'on se dise seulement que c'est dans un moment dit consacré que là le Seigneur va parler. On éteint toutes les lumières, ou bien on les allume toutes, on se met tout à genoux, plus aucune mouche de boule, et là le Saint-Esprit va parler. Non, mes frères, le Saint-Esprit nous parle à tout moment, à tout instant. Mais pour avoir cette intimité avec lui, allons dans le livre, allons dans la Bible, recherchons, lisons tous les jours, que ce soit une discipline, pas une contrainte. Au début, je vais vous donner, une anecdote. On dit souvent, oui, c'est marqué dans la Bible, La chair est faible, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie.
Et la chair est faible. Est-ce que vous savez qu'on peut arriver à l'esprit par la chair? Parce qu'on condamne beaucoup la chair. Et à juste titre. Parce qu'en général, la chair nous éloigne de l'esprit. Mais je vous
raconter une anecdote personnelle. Quand j'ai débuté mes études pastorales, je m'étais donné une discipline de pouvoir me lever quand je me lève le matin, de pouvoir ouvrir ma Bible. Mais ce n'était pas facile. Celui qui vous dit que c'est facile, non. On avance par la grâce et parce qu'on a dit au cœur, on a dit au Seigneur, Seigneur, je veux marcher avec toi. Quand il a demandé qui se lèvera et marchera pour moi, on a dit moi. Mais le Seigneur nous aide à avancer par la grâce. Même les jours où on est fatigué, même les jours où on... Parce que nous sommes des êtres humains. Et donc, un matin, j'avais résolu de me lever à 5h du matin pour prier. J'ai dit, Seigneur, demain je me lève à 5h. Il faut que je le fasse pour avoir une certaine discipline. Attention. Moi, je suis pas partisan des choses qu'on fait par religiosité, parce qu'on le fait comme ça. Mais quand on prend des résolutions, que ton oui soit oui, ton non soit non. J'avais pris la résolution, donc je devais respecter ma parole. Alors, je vais me lever, mais vous savez, le corps il traîne. Bon, je vous fais une petite confidence. J'aime beaucoup les tartines de beurre au miel. Donc, je dis à ma chère, bon, je vais me lever, avant d'ouvrir ma Bible, je vais prendre une tartine de beurre au miel. Je vous avoue, c'est ça qui m'a fait me lever. Donc, c'est ma chère qui m'a fait me lever. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais à la cuisine, je commence à faire ma tartine de beurre au miel pour me motiver, et en la faisant, j'ai mis les oranges. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à faire chasser les oranges. Et tout en satisfaisant les désirs de ma chair pour lesquels je me suis résolu à me lever, parce que si c'était juste par l'esprit, je pense parce que ce jour-là, ma chair n'était pas mon esprit, ce jour-là était un peu encamouflé. Donc la chair était puissante ce jour-là. Et ce jour-là, je me suis levé, j'ai dit, mon cher, je veux te satisfaire. Et en écoutant les louanges, ça m'a mis déjà dans une ambiance de recueillement. Et c'est comme ça que je suis arrivé alors à l'esprit. Et je vous assure, chacun de nous peut témoigner, c'est vrai, on prie tous les jours. Mais il y a des moments où si on se souvient que oui, ce jour-là, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Chacun de nous peut le vivre. Et ce jour-là, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Et pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand je résolus de me lever dans la nuit pour prier, je n'ai plus aucune difficulté. Je me lève la nuit pour prier. Mais le premier jour que j'ai fait ça, j'ai dû passer par la chair pour y arriver. Par la satisfaction des délits de la chair. Mais par contre, qu'on se méprend pas, il y a désir et désir. Donc une petite tartine au miel, donc ça va. Donc, parce qu'il y en a d'autres qui vont satisfaire votre désir en disant que c'est par là, non.
Attention, il faut être très distinct. Donc, c'est cette approche-là que je voulais vous apporter aujourd'hui avec cette approche de revenir vers la parole, de faire une démarche personnelle, de profiter des exhortations de tous les gens qu'on a autour de nous. Le pasteur Vincent, il a dit tout à l'heure qu'on a un ministère brésilien dont nous, quand on a commencé, on avait des pasteurs qui venaient du Brésil pour nous former. À leurs frais, c'était un engagement ministériel. Et donc, il y a des gens si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des gens. Donc, le Seigneur met devant nous des personnes pour nous accompagner, pour nous élever. Donc, on profite de cela. Et on le remercie, on lui rend grâce. Mais ces personnes ne peuvent aboutir à rien si nous-mêmes, nous n'intégrons pas la démarche. Donc nous devons nous-mêmes avoir cette soif-là. Et là, l'apport des autres sera une bénédiction pour nous. Je voulais terminer par la prière une prière pour vous, que je n'ai pas inventée, mais que j'ai trouvée dans le livre des Éphésiens, au chapitre 3, versets de 14 à 21. Je la formule vraiment de tout cœur, et je prie que l'Éternel, au nom de son Fils Jésus, puisse l'accomplir dans vos vies, afin que vous puissiez trouver dans sa parole la dimension de la révélation de la parole dont nous parlons ce matin. Que chaque jour que vous lirez votre Bible, après avoir fait votre prière, que le Seigneur vous éclaire de lumière nouvelle, de révélation nouvelle, de choses que vous n'avez jamais vues à présent, afin que vous puissiez comprendre ce que vous n'avez jamais compris aujourd'hui dans la Bible, que vous puissiez sentir ce que vous n'avez jamais senti, que vous puissiez entendre ce que vous n'avez jamais entendu, et que vous puissiez voir ce que vous n'avez jamais vu à travers les révélations qu'il va procurer dans vos vies. Donc, l'apôtre Paul priait ainsi, et je le personnalise pour vous tous, pour mon frère Vincent, ma sœur Marie-Pierre, et tous les frères et sœurs qui sont ici, dans cette merveilleuse église de Chinon, ceux qui sont là et ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas pu venir, pour nos enfants aussi qui sont là-bas, de l'autre côté du bâtiment. Voilà pourquoi j'ai des genoux en compote, donc je ne peux pas plier les suite à des accidents sportifs. Donc je ne peux pas plier les genoux comme l'apôtre Paul. Mais notre Père éternel sait que je réfléchis spirituellement. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen.